Bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Nous sommes le 8 novembre 2020. Et ce matin, j'ai un message important à vous donner. Vendredi passé, je vous disais que la porte de la grâce est en train de se fermer. Je n'ai pas dit qu'elle est fermée, je dis qu'elle est vraiment en train de se fermer. Et je le sais, je le crois, parce que je connais les ministères que Dieu a donnés et confirmés par des signes, par des miracles, par la manifestation des 9 dons spirituels qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, 7 à 10, je ne crois pas dans les autres prophètes. Je crois particulièrement dans un prophète qui a manifesté cela et que j'écoute, que je crois. Maintenant, comme dit la Bible, il n'y a aucun prophète qui prophétise parfaitement. Mais là, quand même, c'est très fort. C'est très, très fort. Nous avons eu un tel prophète. Et j'ai eu le privilège de connaître un de ses meilleurs amis, le révérend T.L. Osborne, qui était son ami vraiment, et qui a même présidé, qui a prêché lors de son enterrement. Et je tiens de T.L. Osborne le témoignage que la vie de ce prophète a été exemplaire. Il n'y avait pas de trucs, de magouilles, de pognon, d'histoire de sexe ou de... Non, c'était un homme de Dieu. Mais je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre de l'authenticité du ministère de ce prophète. Je suis là pour vous dire ce qu'il a dit. Parce que c'est le message qui est le plus important. Il a dit que l'Église actuelle est décrite dans Apocalypse 3, 14 à 22. Et nous allons lire cela, Apocalypse 3, 14 à 22. Seigneur, je te prie pour que ce message que je donne ce matin soit bien compris et donne à chacun le sens de ses responsabilités au nom de Jésus. Voilà ce qui est écrit. Écrit à l'ange de Laodicée. L'ange de Laodicée, c'est la personne envoyée à Laodicée. Un ange, c'est un envoyé. Jean n'a pas écrit une lettre à un ange qui était dans le ciel, mais à un envoyé sur terre. L'envoyé, c'est-à-dire celui qui était le responsable de l'ange de Laodicée. Mais aussi, c'est une série de lettres, il y a 7 lettres, qui représentent 7 périodes particulières et décisive de l'Église dans son histoire. Et voici, ça c'est la dernière lettre. Nous croyons, nous autres chrétiens nés de nouveau, que nous sommes arrivés au bout, que Jésus revient bientôt. Les signes sont là, en particulier Israël. Eh bien, si nous croyons que nous sommes arrivés à la fin, nous devons croire aussi ce que le prophète dit quand il dit que cette dernière lettre, la 7e, concerne notre temps. Et voilà ce qu'il dit. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Donc Jésus. Il dit à l'Église d'aujourd'hui, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède pour appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage-là. J'en ai déjà souvent parlé, vous pouvez retrouver ça dans mes messages sur révélationbible.fr. Vous allez cliquer dans l'onglet « Messages » et vous allez trouver tout cela. Et puis, ce prophète a été enlevé dans une constellation d'anges. Et ça a été quelque chose de tellement surprenant que même la photo de cela a été publiée par le magazine « Times ». J'ai un exemplaire de ce journal. C'était quelque chose de surnaturel qui était à une hauteur où il ne peut pas y avoir de nuages. C'est scientifiquement prouvé. Et là, il lui a été parlé. Et quand il est rentré dans son église, il a révélé la signification des sept sceaux d'Apocalypse 5 à 8.1. Vous savez, au temps de Jésus, au temps de Jean, un livre, c'était un parchemin qui était écrit à l'intérieur et qui était roulé comme ça, et on mettait un sceau dessus pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Eh bien, ces choses-là qui ont été écrites ont été scellées, c'est-à-dire que même si vous lisez Apocalypse 5, chapitre 5 au chapitre 8, verset 1, même si vous le lisez, vous ne comprenez rien parce que c'est scellé. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? De nos jours, on entend de tout. On entend surtout des gens qui se prétendent eschatologues. Un eschatologue, ce n'est pas un ministère biblique. Un eschatologue, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui essaye d'aligner des noix sur un bâton, et puis qui vous montre des choses plus ou moins vraies. Ça n'est pas un eschatologue, ça n'est pas un prophète. D'accord ? Il y a des eschatologues que j'aime bien, mais ce ne sont pas des prophètes. La parole de Dieu, elle vient aux prophètes, pas aux eschatologues, ni aux pasteurs, ni aux apôtres, elle vient aux prophètes. Alors aujourd'hui, il y a des enseignants qui viennent et qui parlent des sept sceaux. Il y en a qui en parlent plus ou moins bien, mais c'est jamais ça. Ils ne tiennent pas compte de ce que le Seigneur a dit à son serviteur, le prophète. Les prophètes de la Bible, ils faisaient toujours attention à ce que leurs prédécesseurs avaient dit. Là, aujourd'hui, on se met en avant. Ces gens-là, ils contribuent à laisser le peuple dans l'ignorance, dans un flou artistique de confusion. Et se trouvant dans l'ignorance, nous voyons des millions de chrétiens qui prient pour que Dieu fasse des choses qu'il ne veut pas faire. Moi, je reçois tous les jours des dizaines de requêtes de prières. Je ne prie pas pour. Il y a certaines choses que je ne prie pas pour. Ça ne sert à rien. Par exemple, prier pour que la paix vienne dans ce monde. Mais c'est une imbécilité, puisque Dieu dit que ça ne sera pas comme ça. Il ne va pas y avoir la paix. C'est pas vrai. Alors, quand vous priez pour qu'il y ait la paix dans le monde, vous priez contre ce que Dieu dit, contre ce que Dieu veut. Ce qu'il faut faire, vous, apporter la paix là où il y a la guerre. Mais vous ne pouvez pas prier pour que Dieu apporte la paix alors que c'est la guerre qui est programmée. C'est dans son plan. Vous allez me dire, ah bon, mais bien sûr, mais lisez la Bible. Par exemple, on me dit, oh, faut prier pour que ce virus Covid soit éradiqué, qu'on n'en entende plus parler, que ça disparaisse de la terre. Ça n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de pire qui va arriver encore. Ça, c'est juste les prémices. Bien sûr que Dieu peut accorder la guérison à certaines personnes qui sont atteintes du Covid, et gloire à Dieu, merci Seigneur. Je suis très heureux pour ceux qui sont guéris du Covid. Mais mondialement, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas dans le plan de Dieu. Le prophète a dit qu'il est question de notre époque dans Apocalypse 6, 7, 8. Je vais vous le lire. Apocalypse 6, 7, 8. C'est-à-dire que là, il ouvre justement, il reçoit l'interprétation de ce qu'il y a écrit sous le sceau, sous le quatrième sceau. Écoutez, quand l'ange, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant, je vous expliquerai tout ça. J'entendais le quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardais et je vis un cheval verdâtre. C'est Jean qui regarde, l'apôtre Jean. Et il vit un cheval verdâtre. Celui qui montait ce cheval avait pour nom la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Un quart de la population mondiale. Il y a sept sceaux qui doivent être brisés pour révéler ce qui est écrit dessous. Comme je vous ai expliqué, c'était des rouleaux, il y avait un sceau, il fallait briser les sceaux pour qu'il y ait la révélation de ce qui est écrit dessous. Quand l'ange a ouvert le premier sceau, il y avait deux êtres qui étaient là, que Jean a vu. C'était premièrement un cheval, et puis l'autre c'était un être envoyé de Dieu. Dans le deuxième sceau, on trouve aussi ces deux êtres, des êtres différents, mais il y en a deux. Sous le troisième sceau aussi, sous le quatrième sceau aussi, mais pas sous le cinquième sceau, ni sous le sixième, ni sous le septième. Il n'y a plus ces êtres-là. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui est écrit sous le cinquième sceau concerne la terre une fois que l'épouse sera partie. De même pour le sixième sceau, de même pour le septième sceau dont je vous parlerai un de ces jours. Les livres scellés concernent, les quatre premiers concernent la terre et ce qui s'y passe alors que l'épouse est encore sur terre. Les quatre premiers livres scellés qu'on trouve dans l'Apocalypse parlent de ce qui se passe sur la terre pendant que l'épouse est encore là, l'épouse de Christ, pendant qu'elle est encore sur la terre, avant qu'elle soit enlevée. Or, tous les chrétiens nés de nouveau savent très bien que nous sommes à la veille de la venue de Jésus. Nous sommes en plein dans ce qui est écrit sous le quatrième sceau. Ce que je viens de vous lire. Et une fois que ce qui est écrit là sera complètement accompli, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur et la terre vivra alors une horreur décrite sous le cinquième, sous le sixième sceau. Voilà. Alors, lisons ce qui concerne notre temps, le temps de la fin des nations. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? La fin du temps des nations, ça signifie la mondialisation. C'est plus les nations, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est plus un mystère, c'est plus une prophétie biblique dont les païens pouvaient rire. Je vous rappelle dans les années 60, quand on parlait de cela, les païens se moquaient de nous, et même certains chrétiens se moquaient de nous. Mais maintenant, on est dedans, on est dans la mondialisation. Et la dernière barrière importante qui retenait la mondialisation est tombée hier. Comprenne qui pourra. Quand l'épouse de Jésus-Christ sera enlevée, l'Antichrist va prendre le pouvoir mondial. Et voilà ce qui va arriver. C'est ce que je vous ai lu. Le quatrième être vivant, sous le quatrième sceau, il a une tête d'aigle. Ça, c'est écrit dans Apocalypse 4, 7. Les quatre êtres vivants sont décrits. Ils sont autour et sur le trône de Dieu. Ce sont des êtres spirituels qui viennent de Dieu. Ces êtres-là sont au milieu et autour du trône de Dieu. Vous trouvez ça dans Apocalypse 4, 6. Au milieu du trône, ça signifie qu'ils sont au centre du pouvoir de Dieu. Et comme Jésus est en train de construire son Église, ce sont ces êtres vivants qui ont une influence sur l'Église et qui conduisent l'Église et qui dirigent l'Église et qui secourent l'Église et qui aident l'Église. Vous comprenez cela ? Autour du trône, ça signifie justement qu'ils sont au centre du pouvoir, mais qu'ils sont aussi envoyés, qu'ils ont des missions à accomplir, des missions d'autorité dans l'Église. Sous le premier sceau, l'être vivant avait une tête de lion. Pourquoi ? Parce qu'il régnait, c'était un être vivant qui régnait sur une Église qui était conforme à la volonté de Jésus, une Église communautaire. Une Église selon le lion de Juda. Voilà pourquoi il avait, cet être vivant, une tête de lion. Je vous ai déjà expliqué des dizaines de fois ces choses, mais je le redis encore. Sous le deuxième sceau, l'être vivant ressemblait à un bœuf. Parce qu'il dirigeait avec peine une Église qui était persécutée, mais qui était aussi divisée. Et cet être vivant était un peu comme un animal de trait qui souffre en tirant. C'était très pénible, une époque très pénible. C'était l'époque de la naissance du catholicisme, de toutes ces choses, divisions dans l'Église, des horreurs. Sous le troisième sceau, l'être vivant avait une tête d'homme. Pourquoi ? Parce que l'Église se réveillait. Elle a commencé à se réveiller grâce à l'intelligence spirituelle d'un homme, Martin Luther, le réformateur, en 1500 et quelques. C'était le temps de l'intelligence qui venait au secours des choses de la foi. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi. Voilà, ça c'était le message principal de cet homme. Cet homme a protesté, voilà pourquoi on appelle ces gens-là des protestants. Il a protesté contre les hérésies de l'Église catholique, qui au cours des siècles avaient rajouté des tas de trucs invraisemblables qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Mais vous qui êtes catholique et qui m'écoutez, ne vous vexez pas. Ouvrez simplement vos yeux, ouvrez vos Bibles, ouvrez vos yeux, demandez à Dieu, il est capable de vous instruire, de vous parler, de vous convaincre. Et quand l'ange a ouvert le quatrième sceau, Jean a vu un être vivant qui ressemblait à un aigle qui volait. Ce n'est pas un aigle qui est en train de marcher et puis courir avec les poules, il est en train de voler. C'est-à-dire qu'il voit tout de haut. C'est l'esprit de prophétie qui révèle à l'Église les choses qui étaient scellées dans le livre de l'Apocalypse. Sur chaque sceau, il y avait aussi un être maléfique. C'était des chevaux. Ceux-là sont des êtres vivants du monde des ténèbres et du mensonge. Premièrement, ils se présentent comme un cheval blanc, la pureté. Mais c'est le diable, c'est pas Dieu. C'est pas Jésus. Vous trouvez Jésus assis sur un cheval blanc beaucoup plus loin avec une épée, n'est-ce pas ? Mais là, non, là c'était le diable déguisé. Il commençait à rentrer dans l'église, à s'infiltrer. Voyons maintenant ce qui doit se passer dans notre époque. Sous le quatrième sceau, alors que l'épouse est encore sur terre, c'est-à-dire maintenant, voyons un peu ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. L'être vivant maléfique est un cheval verdâtre. Il est monté par la mort. Et il est suivi par une foule de morts. Ça, c'est une chose unique dans l'histoire de l'homme et de la femme, de l'humanité. La porte du séjour des morts est maintenant ouverte et les morts viennent et se baladent sur la terre. Et puis, ce n'est pas les plus gentils. Hein. Les morts les plus nuisibles parcourent la terre. Ce n'est pas le bon côté du séjour des morts, non, c'est le mauvais côté du séjour des morts qui est ouvert et qui parcourt la terre et ils reçoivent un pouvoir. Qui c'est qui leur donne ce pouvoir ? Dieu ! Il n'y a rien qui se passe si ce n'est pas Dieu qui permet. Ils ont reçu le pouvoir de faire mourir un quart de la population, mais pas seulement les êtres humains, mais aussi la nature et ces choses-là, un quart de la Terre, un quart. Alors aujourd'hui, enfin, jusqu'à il y a encore quelques années, on avait affaire à des démons, on avait affaire au diable, maintenant en plus on a affaire aux morts. Voilà pourquoi on entend tellement d'histoires au sujet de morts, au sujet de... Ils ont le pouvoir de tuer, premièrement, par les armes. La Bible dit par l'épée. À l'époque, il n'y avait pas de revolver, il n'y avait pas de bombe atomique. L'épée, c'est le symbole d'une arme de guerre. Mais pas que la guerre, les armes aussi des terroristes. Par la famine. Alors, ouvrez les yeux, allez sur Google, tapez famine mondiale, regardez les chiffres. C'est épouvantable. Nous qui nous occupons comme on peut avec les dons pour aider des villages en Afrique où il y a la famine, on les voit ces gens-là. C'est épouvantable ce qui se produit. Mais quand on est là en France, bien peinard, avec BFM qui nous saoule toute la journée, on voit pas ces choses, on se rend pas compte. Hein. Premièrement par les armes, deuxièmement par la famine, troisièmement par la peste. On est tous confinés là aujourd'hui. À cause de quoi? Des yaourts, des carambars, à cause de quoi on est confinés? Il y a un mot, hein? C'est une peste mondiale. Parce que tout devient mondial. Et puis elle va prendre des formes pires encore pour le moment. Mais c'est quand même terrible, vous vous rendez compte, on est à presque 60 000 morts par jour, 60 000 cas par jour détectés en France. C'est quand même... Et puis les gens font des blagues là-dessus. Et les gens, j'en vois, ils veulent pas mettre le masque, ils veulent pas, ils trouvent encore des bonnes excuses. Bon. C'est le monde. Quatrièmement, par les bêtes sauvages de la Terre. Ils ont le pouvoir de tuer par les armes, par la famine, par la peste, mais aussi par les bêtes sauvages de la terre. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être tué sur la terre, dans nos pays civilisés, par des bêtes sauvages? Même quand on va en Afrique, moi, ça fait 20 ans que j'y vais, j'ai encore pas vu un lion. Comment est-ce qu'on peut être tué par des bêtes sauvages à Paris? À Perpignan, comment est-ce qu'on peut être tué par des bêtes sauvages à Marseille, à New York, à Lausanne? Comment? Les rats. C'est pas des animaux domestiques, les rats, hein? Oubliez la planète des singes. Le futur appartient aux rats. Ce sont des animaux sauvages et intelligents. Et dans les régions à forte densité de population, les villes, le nombre des rats est plus élevé qu'ailleurs. Nous, ici, on a des petites souris, des mulots, des machins, des chats, ils rigolent avec. Mais dans les villes, ça pullule, ce qui augmente les risques d'épidémie. Dieu nous a dit, il y a des années, quittez les villes. Quand on a dit ça aux chrétiens, ils ont dit, vous êtes fous. C'est faux pas. Bon, on était fous. Voilà. Je vous donne un exemple. À New York, il y a déjà deux fois plus de rats que d'êtres humains. À Paris, on estime la population des rats à 6 millions, c'est-à-dire 3 rats pour un habitant. Au cours de la dernière décennie, la population des rats a augmenté de 15 à 20% dans les villes du monde. Et les chiffres que je viens de vous donner là, c'est des chiffres qui datent de 2013. Je ne me suis pas donné la peine d'aller chercher pour 2020. Donnez-vous la peine d'aller chercher pour 2020. Combien il y a de rats dans votre ville? Il faut savoir que les rats se reproduisent très rapidement. Ils ont 5 à 13 rats par portée. La maman rat, elle accouche 5 à 13 rats. Et elle a 5 portées par an. Faites le calcul. Faites le calcul. Destruction d'un quart de la planète par la mort, les armes, la famine, la peste et les animaux sauvages. Alors, est-ce que Jésus parle aussi de ça? Parce qu'on trouve ça dans l'Apocalypse, mais est-ce que Jésus, lui, il en a parlé? Alors oui, il en a parlé, on trouve ça dans Matthieu 24, 9 à 14. Si vous lisez le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, tout semble embrouillé. Et les théologiens, les enseignants, les eschatologues ont de la peine à dire quel passage nous concerne parce que tout semble être embrouillé, mélangé. C'est voulu. C'est afin que le monde ne sache pas, que le monde ne comprenne pas, que l'Église, les vierges folles ne comprennent pas. C'est normal qu'ils ne puissent pas savoir parce que tout ça, c'est scellé. Ça a été scellé jusqu'en 1963. Ils ont eu un prophète et ils l'ont rejeté. Et il fallait que ce soit un prophète majeur qui reçoive la révélation de ces choses. Alors on va prendre maintenant le texte qui nous concerne dans Matthieu 24, 9 à 14. Alors on vous livrera à la persécution. C'est pour notre temps, hein. Et on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile est prêché dans toutes les nations, non pas pour que les gens soient sauvés, bien sûr aussi pour que les gens soient sauvés, mais afin que ça serve de témoignage. Au jour du jugement, ils ne pourront pas dire « nous ne savions pas ». Premièrement, il dit « il y aura des persécutions ». En 2019, 260 millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde. Mais pas persécutés façon « Ah, t'es chrétien, oh, pff, qu'est-ce que t'es bête !» Non, non, persécutés, je veux dire, ils perdent leur emploi, on les bat, on les tue. En 2018, 4305 chrétiens ont été massacrés à cause de leur foi. L'autre jour, j'écrivais sur Révélation Bible, sur Facebook, « N'ayez pas peur ». Une gentille chrétienne m'a écrit « Mais quand on est chrétien, on n'a peur de rien ». Alors je lui ai répondu « Allez demander aux chrétiens qui vivent au nord du Burkina s'ils n'ont pas un peu peur le dimanche matin quand ils vont au culte, sachant qu'ils risquent d'être massacrés par des islamistes enragés ». Ah oui, oh, ça me fait de la peine pour eux. Oui, pour réfléchir avant de parler. Il faut se renseigner, il faut lire, il faut apprendre, il ne faut pas rester là à dire « Alléluia, les choses sont grasses et merveilleuses, gloire à Dieu ». Il existe une liste de 50 pays dans lesquels il y a une persécution extrêmement grave. Il y a une autre liste de 150 pays où la persécution est grave, mais quand même pas aussi grave que dans ces 50 pays. Je ne vous donne pas les noms, je pense que vous avez deviné. Le classement de 2020 montre une augmentation de la persécution depuis les 7 dernières années. Une augmentation, ça ne va pas en diminuant, non, ça augmente. Je ne vous explique pas d'où viennent ces persécutions, si vous ne le savez pas, c'est que vraiment, là, vous êtes à côté de la plaque. Il y a des chrétiens qui se trahissent les uns les autres parce qu'ils ont peur. Verset 20. C'est Jésus qui dit ça. Des parents, des enfants qui trahissent leurs parents, etc. Voilà. Le deuxième signe que Jésus donne, c'est les prétendus prophètes qui surgissent et trompent beaucoup de monde. Vous voulez que je vous donne des noms? Vous voulez que je vous donne des noms? Mais non, je ne vous en donnerai pas. Il y en a plein, ça pullule. L'autre jour, il y avait une bonne femme, ils nous ont montré ça sur partout, sur les réseaux. Elle était là avec son pull qui tombait à moitié, on voyait la bretelle de son soutien-gorge, une femme pasteur, une télévangéliste, qui dit « J'entends les anges, j'entends les anges, j'entends les anges, j'entends les anges, oh amen, 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 c'est la victoire, il crie victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire, amen, 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 amen. » Pro-Trump, elle est où sa victoire? Oui, mais les décans ne sont pas encore finis. Bon. Mon Dieu. Mon Dieu. Et puis je ne vous parle pas de ces faux prophètes qui disent qu'il faut tuer les chrétiens, qu'il faut tuer les juifs, qu'il faut. Je ne vous parle pas de ça, hein. Je ne vous parle pas. Non. Et je ne vous parle pas non plus de ces espèces d'andouilles qui fichent les divisions dans les églises, non, je ne vous parle pas de ça, avec leur prophétie à la noix de coco, et puis leur grande prétention, il ferait mieux de faire du sport. Troisièmement, il y aura une progression du mal. La King James, qui est une Bible américaine qui est reconnue pour être une des meilleures traductions, dit « une progression de l'injustice, de l'iniquité ». Là aussi, est-ce que je dois vous expliquer où se trouve la corruption, l'injustice et l'iniquité? Vous voulez aussi des noms? Vous ne savez pas d'où ça vient l'injustice? Ah ben non, je ne sais pas. Ah ben bon. Bonne nuit. Restez dans vos ténèbres. Illusionnez-vous. Jésus dit que, à cause de cette progression de l'injustice, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais regardez-les comme ils s'aiment dans les manifs. Oui. Mais c'est normal. Les gens en ont marre. L'amour, c'est quoi l'amour? Maintenant, on fait l'amour. Mon Dieu. Qui manifeste de l'amour pratiquement de façon désintéressée? Qui? Même parmi vous qui écoutez dans Révélation Bible, quand je vous demande de m'aider pour un cas ou un autre, il y en a toujours. Vous êtes 2500 et quelques fidèles sur Révélation Bible. Ceux qui donnent, ils sont 4-5, et encore. L'amour du plus grand nombre. Ah, mais moi, je ne peux pas. On peut toujours quand on veut. Vous vous privez vos cigarettes, vous vous privez un jour ou deux de quelque chose pour donner pour l'œuvre de Dieu. L'amour, l'amour. L'amour est un bouquet de violettes. Ben, reçu avec ça. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est Jésus qui dit ça. On n'est pas sauvé par la grâce. Non, on est sauvé si on persévère jusqu'à la fin. Et quatrièmement, l'évangile sera prêché dans le monde entier. C'est fait. C'est fait. Pour servir de témoignage. Parce que quand Jésus reviendra, personne ne pourra dire « Ah bon, ça ne veut pas ». L'évangile est prêché, mais pas seulement par des évangélistes qui vont prêcher devant des foules. Les gens. Non, par la télé, par la radio, par Internet, l'évangile rentre dans les maisons, partout, 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 partout. Eh oui. Et Jésus termine en disant « Alors viendra la fin ». La fin de quoi? La fin du monde? Non. La fin du temps des nations. Laissant la place à l'établissement de la mondialisation avec l'Antichrist à sa tête. Voilà où on en est. Mais sur une échelle de 1 à 10, on est à 9,7. Qu'est-ce que vous voulez? Que les choses s'arrangent. Moi, je ne veux pas qu'elles s'arrangent. Vous savez ce que je veux? Je veux ce que le Saint-Esprit veut. Mais qu'est-ce qu'il veut le Saint-Esprit? Eh bien, on va le lire. Apocalypse chapitre 22, pardon, versets 16 à 17. Voilà ce que la Bible dit. Moi, Jésus, j'envoyais mon ange vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'Esprit Saint, avec une majuscule, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Amen. Voilà ce que je veux. C'est que Jésus vienne. C'est que Jésus vienne. Alors si vous ne voulez pas de la mondialisation, si vous priez pour qu'il n'y ait pas la mondialisation, Eh bien, vous ne voulez pas que Jésus revienne, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la mondialisation, après il faudra que l'Antichrist vienne pour régner pendant quelque temps, et puis ensuite Jésus viendra. Mais si vous priez pour que ça n'arrive pas, ces choses, eh bien, vous êtes en train de prier contre ce que l'Esprit veut. L'Esprit dit « Viens, Seigneur Jésus », et l'épouse dit « Viens, Seigneur Jésus ». Remarquez, ce n'est pas l'Église qui dit « Viens, Seigneur Jésus ». L'Église, elle prie pour la paix dans le monde. Elle prie pour que le Covid s'en aille vite, vite, vite. Elle prie pour qu'il n'y ait plus de terroristes. Elle prie pour qu'il y ait l'abondance. Oh Seigneur, envoie-nous l'abondance. Elle prie pour avoir la paix. Elle prie. Voilà, l'Église tiède. Jésus dit qu'elle est folle. Matthieu 25, 1, 13. Vous direz, l'épouse, qui est une partie de l'Église, elle est invitée à sortir des églises. Sors du milieu d'elle, mon peuple, afin que tu ne participes pas au châtiment que je lui ai réservé. Et l'épouse de Christ, qui est fidèle, sont les vierges sages qui ont la réserve d'huile qu'il faut, c'est-à-dire du Saint-Esprit, du message du Saint-Esprit. Ceux-là, ils disent « Viens, Seigneur Jésus !» Ils soupirent après la venue de Jésus. Ils crient après la venue de Jésus. Viens, viens pour terminer avec Satan, viens pour en terminer avec ses... Il doit venir avec une verge de fer, vous croyez que ce sera pour chatouiller les gens? Ça va être terrible quand il va venir. Viens pour régner sur ces corrompus, viens Seigneur Jésus, pour régner sur tous ces injustes, leur mettre la tête dans la poussière, et qu'ils se taisent et qu'ils cessent. Viens Seigneur Jésus. Quelle est votre prière? Votre prière montre si vous êtes prêt à partir avec Jésus, si vous êtes l'épouse ou si vous êtes une vierge folle. Une vierge folle, rappelez-vous la parabole, c'est une vierge, c'est quelqu'un qui est bien, c'est un bon chrétien, une bonne chrétienne, vierge, elle est pure, mais il lui manque de l'huile, elle n'a pas de réserve, elle n'a pas l'huile pour le moment. Au moment où il faut, elle l'a pas. Ah ben c'est ballot, elle n'a pas l'huile pour... Ah Jésus vient, elle n'a pas l'huile pour aller à sa rencontre. C'est ballot, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas le message, ouin, pour la fin, pour notre temps. Vous avez le message des années 60, vous êtes en retard de 50 ans dans vos églises, dans vos clubs chrétiens. Sortez de là! Juste une chose pour terminer. Suivez de près Kamala Harris. Suivez-la de près. Le prophète l'a vue en 1963. Et ça n'augure rien de bon. Mais qui le sait? L'épouse, pas l'Église. Pourquoi l'épouse le sait? Parce qu'elle écoute le prophète. Nous vivons un temps exceptionnel. Nous avons un rôle à jouer en tant que royaume et de prêtre et de sacrificateur. De quel côté êtes-vous? Vous allez dire, Michel, aujourd'hui tu nous fais peur. Ben, un petit peu, ouais. Je suis pas là pour vous dire, oh, alléluia, c'est merveilleux. Oh, comme c'est bien, on a suivi les élections. C'était bien, hein? Oui, c'était bien. Oh, oui, c'était bien, hein? Amen, tiens, passe-moi le sel. Mon Dieu, je ne suis pas là pour vous dire des niaiseries, je suis là pour vous dire la vérité. Maintenant, le prophète dont je vous parle, c'est William Marion Branham. Amen. Merci Seigneur Jésus de bénir mes frères et sœurs, de les aider à bien comprendre ce que je leur ai enseigné aujourd'hui. Amen. Au revoir.